BW. Vue d'Allemagne.
Guten Tag, willkommen, bonjour et bienvenue dans ce magazine consacré à la République fédérale et au monde. Dans un instant, on parle criminalité, descente de police et justice en Allemagne. Et puis dans la seconde partie de ce magazine, on vous emmène à Barcelone. La ville espagnole est confrontée au défi d'accueillir des milliers de jeunes marocains. Des jeunes parfois paumés qui dorment dans la rue aussi. On ira à leur rencontre. Mais d'abord donc, comme chaque semaine, c'est l'actu et c'est en Allemagne. Des sirènes de police, beaucoup de sirènes de police. Depuis le début de l'année, les descentes des forces de l'ordre contre les groupes mafieux se multiplient en Allemagne. 500 policiers mobilisés la semaine dernière à Essen, en Rhénanie du Nord-Westphalie. 1300 au moins au mois de janvier dans plusieurs villes de la même région de l'ouest du pays. Tout ça à la période même où se déroule un procès contre des voleurs présumés membres d'un clan mafieux à Berlin, cette fois dans la capitale. Il est temps d'appliquer le principe de la tolérance zéro, disait tout récemment le ministre de l'Intérieur de Rhénanie du Nord-Westphalie, où ont eu lieu les plus grosses actions de police. Alors tolérance zéro contre qui? Quel clan d'abord? Ce sont en fait diverses familles, des groupes mafieux, des groupes ethniques présents en Allemagne depuis parfois plusieurs dizaines d'années. Originaires du Liban, de Turquie, d'Albanie, du Kosovo ou encore de Tchétchénie, les experts les plus alarmistes évoquent le chiffre de 500 000 personnes membres de ces groupes de façon plus ou moins active. Des groupes que décrivait il y a quelques semaines Sébastien Fiedler, le vice-président fédéral de l'Association des enquêteurs criminels allemands, à nos confrères de Deutschlandfunk, une radio publique allemande.
Si vous voulez, leur point commun est qu'il s'agit de sous-cultures qui revendiquent leur propre système de normes et de valeurs, qui rejettent catégoriquement le système juridique allemand, qui essaient d'établir leur propre système juridique et qui vivent d'une part en utilisant les services sociaux allemands et d'autre part en maintenant un niveau de vie élevé grâce aux actes criminels.
Des actes criminels qui vont du trafic de drogue à celui des armes en passant par l'argent sale ou des vols spectaculaires. Des groupes installés depuis 20, 30, voire 40 ans pour les plus anciens qui vivent dans le luxe parfois aux yeux de tous. Certains peuvent d'ailleurs se payer les meilleurs avocats du pays s'ils ont des soucis avec la justice. Alors aujourd'hui, leur ancrage dans le temps est une difficulté à laquelle doivent faire face la police et la justice. Certains membres ont grandi et vécu toute leur vie dans ces groupes. L'islamologue Matthias Rohe prend l'exemple des premiers réfugiés libanais pendant la guerre civile, arrivés en 1975 en Allemagne.
Les personnes qui ont grandi de cette façon viennent généralement d'États où elles ont survécu sous la protection de la famille élargie. L'État était l'ennemi, il y avait des discriminations massives. Cela signifie que la stratégie de survie était de se serrer les coudes. Les gens sont venus ici dans les années 70 et 80. À l'époque, nous leur avions clairement fait comprendre que nous ne voulions pas d'eux ici, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas accès à l'éducation et au travail.
Aujourd'hui, l'histoire se répète. En décembre dernier, plusieurs médias allemands révélaient que des réfugiés arabes arrivés à Berlin depuis 2015 étaient devenus une cible du recrutement de clans criminels d'origine libanaise. Des hommes seuls, souvent, qui cherchent un travail mais ne parlent pas bien, voire pas du tout allemand. Les groupes criminels les emploient donc pour commettre des vols à leur place, par exemple. Des cas et des activités criminelles loin d'être isolés. Fin août 2018, l'an dernier, la police saisissait 77 biens immobiliers appartenant à un même groupe dans la capitale allemande. Des biens acquis avec de l'argent récolté lors d'un casse de banque, selon les enquêteurs. Dans l'autre région fortement touchée par les actes de ces clans, en Rhénanie du Nord-Westphalie, on en parlait, entre 2016 et 2018, plus de 14 000 infractions ont été enregistrées pour le compte de ces clans. Des crimes violents, des infractions contre les biens, des fraudes ou encore du trafic de drogue. Aujourd'hui, la police tente donc d'agir avec la politique dite des 1000 piqûres d'épingle. Ça veut dire faire des interventions souvent surprises pour gêner au maximum le travail des mafieux. Des groupes qui seraient donc déjà perturbés dans leur quotidien, mais contre lesquels le seul volet policier ne suffira pas. C'est ce que dit aujourd'hui le spécialiste de l'islam et des migrations, Ralph Gadban.
Muss man erstmal die Gruppe Il faut d'abord dynamiser le groupe pour qu'il y ait une intégration individuelle. J'estime que 30 à 40% des membres veulent mener une vie normale, mais ils se sentent piégés dans ces clans. Il faut leur offrir la possibilité d'en sortir. Cela ne concerne pas les hommes en premier lieu, mais les jeunes et les femmes aussi. Pour les femmes, nous n'avons pas d'infrastructure du tout. Si une femme se sort du clan, il faut la former pour qu'elle trouve un emploi, qu'elle apprenne à devenir indépendante. C'est un long processus. Nous n'avons pas d'infrastructure pour cela en Allemagne aujourd'hui.
Mêlez donc répression et prévention, Ralph Gaddan estime qu'il faut aussi donner davantage de moyens à la justice, l'adapter pour mieux répondre à la menace.
Ce qu'il faut de maintenant améliorer, c'est la loi. Avoir, comme en Italie, une version du fardeau de la preuve, comme on dit en langage judiciaire. C'est ainsi qu'ils ont réussi à réduire le pouvoir de la mafia sur place. Ici, ce n'est pas possible. Un exemple pour comprendre. Lors d'une perquisition, ils ont découvert 60 000 euros chez une personne qui vivait de l'aide sociale Hartz IV depuis des années. C'est maintenant au tribunal de prouver que l'argent a été volé. Il faut changer la loi. Cela doit être confisqué immédiatement, et si la personne concernée veut récupérer son argent, elle doit prouver elle-même que l'argent est gagné honnêtement.
Un travail pas facile dans tous les cas pour les policiers et la justice. Certains policiers ont d'ailleurs déjà été menacés en dehors de leur travail, dans leur vie privée directement. Mais des experts parlent de fissures au sein des clans. Désormais, certains membres accepteraient de collaborer avec la police depuis quelques temps. Pas de quoi se réjouir pour autant côté forces de l'ordre. Ceux qui luttent contre ces groupes savent que le chemin sera long. Pour donner une image de la difficulté, un expert confiait en préparant cette émission, en évoquant la lutte contre ces groupes. Ce n'est pas un 100 mètres, mais un marathon.
Was für ein Gefühl, mich in der Juice zu sehen. Ich brauche nur ein Blatt Papier, um in der Juice zu stehen. Ich wollte immer schon zu Viva TV.
Ni Wieder, plus jamais de Bushido. Le rappeur allemand originaire de Bonn, âgé de 40 ans, a fait sensation l'an dernier en mars. Pas pour ses chansons ou ses déclarations polémiques comme souvent, mais pour sa rupture avec le célèbre Arafat Abu Shaker, un chef de clan très connu à Berlin. Les deux hommes se sont longtemps affichés ensemble, avant que le rappeur annonce donc la rupture l'an dernier et fasse même une chanson évoquant son ancien ami. Une annonce qui lui a valu des menaces encore récemment, menaces de torture lancées publiquement sur une radio privée allemande il y a quelques jours.
Wenn ich nicht rauskam, wusste ich, dass alle Kinder warten. Ich musste laufen lernen, ich hatte keinen Kinderwagen. Der kleine Penner, der den ganzen Tag nur Scheiße baut. Alle Mädchen, die ich kannte, sahen scheiße aus. Ich hatte Spielzeugautos von Matchbox, der wegen Spielzeugautos jeden wegbox. Ich bin damals jeden Sonntag zum Flohmarkt. Ich wusste, wenn ich groß bin, mach ich meinen Flow hart.
Allez, un tout autre sujet maintenant dans Vue d'Allemagne, loin de l'argent qui coule à flot, on part en Espagne. Ce pays du sud de l'Europe est devenu la première porte d'entrée en Europe des migrants. 57 250 arrivées, très précisément, recensées l'an dernier, deux fois plus qu'en 2017. Et parmi ces demandeurs d'asile, ces réfugiés, il y a de très nombreux jeunes, des mineurs non accompagnés parfois. Près de 12 500 d'entre eux se trouvent actuellement sous la tutelle des régions sur place. Des jeunes qu'a rencontré Henri de la Guérie à Barcelone.
La prestigieuse bibliothèque de Catalogne, un bâtiment médiéval du centre-ville, abrite un joli jardin ouvert au public. C'est ici, entre les arbres, quelques statues et une petite fontaine que de jeunes Marocains tuent le temps. Sur des marches, une dizaine d'entre eux, âgés de 15-16 ans, discutent en écoutant de la musique grâce à une petite enceinte. Un peu plus loin, deux garçons assis sur un banc regardent l'écran de leur portable. Ils ont des cernes sous les yeux. Ahmed, 17 ans, mitouflé dans une doudoune, accepte de nous raconter son histoire.
Ça a été difficile d'arriver jusqu'ici, tu sais. J'ai traversé avec un bateau parti en 2015 et j'ai accosté à Motril en Andalousie. J'ai passé 33 heures sur le bateau. Pour moi, comme pour tous les autres, c'était très difficile.
Ahmed a les yeux verts et il tient à le signaler. Il est berbère, il a quitté le Maroc sans prévenir sa famille.
À Motril, je suis allé dans un centre d'accueil. Ensuite, ils m'ont envoyé dans un autre centre à Tarragone. Puis, ça a encore changé et je me suis retrouvé à Barcelone. Quand on est arrivé ici, tout le monde nous disait qu'il y avait du travail. Mais à nous, les Marocains, on ne nous donne pas de papier. Or, si tu n'as pas de papier, tu ne peux pas trouver d'emploi. Et donc, si tu n'as pas de travail, que tu ne peux pas manger et que tu n'as pas de logement, qu'est-ce qu'il te reste à faire ? te démerder. Et tu vois, en ce moment, c'est l'hiver, il fait froid. Alors nous, comment on peut s'en sortir? Si on ne vole pas, si on ne se débrouille pas différemment, on ne peut ni manger, ni s'habiller.
Ahmed le reconnaît, il pique parfois les portefeuilles des touristes. Fatigué de vivre dans un centre d'hébergement loin de la ville, il a pris la fuite et dort le plus souvent dans la rue. En Catalogne, plus de 300 mineurs isolés arrivent chaque mois. Ce sont quasiment tous des garçons, originaires pour 80% d'entre eux du Maroc et d'Algérie. Robert Moral les connaît bien, il est éducateur dans un centre d'accueil.
Il y a de nouveau des enfants dans la rue. Ça faisait des années qu'on ne voyait plus ça à Barcelone. Dans les centres pour mineurs, les jeunes dorment par terre sur des matelas, ou parfois même sans matelas à même le sol. On a été complètement débordés. Comme le réseau d'accueil a rapidement été saturé, les mineurs se sont retrouvés à dormir dans les commissariats. Et ceux qui n'y trouvaient pas de place ont fini par dormir dans la rue.
En Espagne, ce sont les régions qui prennent en charge ces mineurs. Des auberges de jeunesse ont été créées à la hâte, souvent dans des lieux isolés. L'administration est censée leur offrir un lit et 3 repas par jour. Mais dès qu'ils ont 18 ans, on leur donne 50 euros et ils sont priés d'aller voir ailleurs. C'est ce qui est arrivé à Chaoufik, un gamin né à Tétouan, dans le Rif, cette région pauvre du nord du Maroc.
Je viens tout juste de devenir majeur. Et donc, quand tu as 18 ans, ils te demandent de quitter le centre et ils te mettent à la rue. Moi, je dors à droite, à gauche, mais le plus souvent dans la rue. On est en train de se perdre à cause de la rue et à cause de toutes ces drogues. Tu sais, quand j'étais petit, nos familles nous disaient toujours de faire attention à ne pas tomber dans la drogue. Mais il a fallu qu'on se retrouve dans ces villes pour devenir accro à la drogue.
Et la drogue, ce n'est pas seulement le cannabis qu'il fume en répondant à mes questions, c'est surtout la colle qu'il sniffe à longueur de journée, une drogue qui fait des ravages chez les jeunes Marocains. Chaoufik explique avoir suivi une formation de jardinier, mais il n'a pas trouvé de travail. Quand on lui parle d'avenir, il répond qu'il ne sait même pas où il dormira demain. Mais une chose est sûre, il ne rentrera pas, même si ses parents lui manquent.
On parle quelquefois avec la famille. Si on a un portable et qu'on a du Wi-Fi, on peut parler avec les membres de la famille. Mais souvent, on ne peut pas communiquer. Moi, ça fait 4 mois que je ne parle pas à ma famille. Quelqu'un de chez moi pourrait mourir. Je ne le saurais pas.
Robert, l'éducateur, n'est pas très optimiste. Les moyens manquent, dit-il, et le personnel dans les centres n'est pas formé pour encadrer ces jeunes qui ont grandi trop vite et dont certains vivaient déjà dans la misère au Maroc. Heureusement, il y en a qui s'en sortent et c'est ce qui lui donne envie de continuer.
L'autre jour, un de ces jeunes, qu'on appelle Mohamed, a fait sa première installation électrique sous mes yeux. Il a suivi une formation pour devenir électricien. Et le voir sur son lieu de travail, en train de connecter des câbles, ça fait du bien. Malheureusement, pour un qui s'en sort, il y en a beaucoup trop pour qui ce sera trop difficile.
Cet éducateur craint que plus de la moitié de ces jeunes restent sur le bord du chemin et que les 40 millions d'euros débloqués en urgence par Madrid n'y changent pas grand-chose. Barcelone, Henri de la Guérie pour la Deutsche Welle.
Merci Henri et merci à Olivier Pieper, Sandrine Blanchard et les techniciens de la DW pour leur aide dans la préparation de ce magazine. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. Vous retrouverez Anne Le Touzet et nos correspondants la semaine prochaine pour un tout nouveau numéro de Vue d'Allemagne. D'ici là, n'oubliez pas nos podcasts sur le site de la DW, sur les applications de podcast aussi directement. Vous pouvez également nous écrire vos remarques, vos idées de sujet, vos envies, vos critiques même peut-être via WhatsApp, Facebook ou sur notre site directement. Je vous souhaite une très bonne semaine. Auf Wiedersehen et tschüss. Prenez soin de vous. À très bientôt.